Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le Canu Info du lundi 31 janvier et donc aujourd'hui on va changer un petit peu, on va commencer par une interview de deux camarades de Sud Santé Sociaux, qui vont nous parler du mouvement en cours à l'échelle nationale et locale et ensuite on enchaînera à l'international donc avec un sujet sur le coup d'état au Burkina Faso et les attaques des djihadistes contre une prison au Rojava.
Et on continuera au national avec un premier sujet sur la tentative de dissolution du média autonome Nantes révolté. Et ensuite un sujet sur un témoignage encore accablant sur la répression des témoignages contre les violences policières. Mais tout de suite, on commence par notre interview.
Donc, pour changer, eh bien, nous allons commencer par une interview. Et donc, nous recevons aujourd'hui Marc Lefebvre de Sud Santé Sociaux et Laurent Moreno, qui est négociateur national sur l'ensemble des conventions collectives du social, du médico-social et du sanitaire, et qui est également à Sud Santé Sociaux. Alors déjà, merci d'être ici à tous les deux.
Pas de quoi.
déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser aux auditeurs et auditrices quel secteur ça concerne exactement, le social, le médico-social et le sanitaire, en parlant bien dans le micro.
Oui, alors pour peut-être que les gens puissent comprendre, notre secteur recouvre pas mal d'établissements, hein, les maisons d'enfants à caractère social. Il y a aussi l'hébergement d'urgence, le suivi des mineurs non accompagnés. Il y a aussi la protection de l'enfance. Il y a aussi la prévention spécialisée, mais pas que. Il y a tous les établissements qui concernent la prise en charge des personnes handicapées, déficientes et déficientes, comme les foyers de vie, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, les instituts médico-éducatifs, etc., etc. Donc je pense que les gens se reconnaîtront dans tous ces établissements.
Ça représente combien de salariés en France ?
Alors au total, ça représente 800 000 salariés dans le secteur, ouais. 600 000 qui sont couverts par une convention collective et 200 000 qui ne le sont pas. Voilà.
D'accord, très bien. Alors là, demain, il y a une nouvelle journée de mobilisation nationale. C'est la 4e grève depuis octobre. On a quand même l'impression qu'il y a une certaine montée en puissance de la mobilisation, qu'il y a un peu un caractère historique à cette mobilisation pour ces différents secteurs. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quelles sont les raisons de la colère? Et on sait qu'elles sont nombreuses et qu'en plus, il y a quand même deux secteurs, il y a le public et il y a le privé. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi cette mobilisation, pourquoi elle grimpe, elle monte en puissance?
Alors en fait, cette mobilisation fait suite à ce qui s'est passé dans le public et les accords du Ségur de la Santé, où en fait nos camarades du public ont obtenu 183 euros net mensuels de complément de salaire. Et comme dans notre secteur, on fait exactement le même métier et on a été dans les mêmes conditions de travail pendant la pandémie, on réclame nous aussi cette revalorisation salariale de 183 euros, sachant que pour Sud, c'est une première marche vers les 400 euros de réajustement de salaire qu'on demande, parce que c'est pour rattraper le coût de la vie pour l'instant.
Donc il y a les salaires, un peu d'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres secteurs, mais ce n'est pas la seule revendication, loin de là.
Ah bah non, parce qu'en fait, ce qui se passe depuis des années maintenant, c'est que le secteur est confronté à une libéralisation, c'est-à-dire où on applique les méthodes du privé lucratif de plus en plus dans les établissements sociaux, médico-sociaux, et avec les mêmes dégâts, c'est-à-dire burn-out, c'est-à-dire conditions de travail qui se dégradent. En fait, on peut dire, si on veut synthétiser, les deux grosses raisons des mobilisations depuis le 4 octobre, c'est les salaires et la détérioration des conditions de travail. Là-dedans, on inclut en particulier le management complètement délirant dans les boîtes, où, avec du harcèlement à tous les étages et un manque de moyens pour travailler.
D'accord. Le statut des établissements, là, vous me parliez tout à l'heure d'un fameux contrat impact social, qui clairement est lié au désengagement financier de l'État et d'une gestion, tu le disais, de plus en plus managériale des salariés. Qu'est-ce que c'est concrètement?
Alors, le contrat impact social, c'est une espèce de saloperie qui nous vient des pays anglo-saxons. C'est-à-dire que, en fait, l'État se retire des financements des établissements de l'action sociale en général, et confie ses financements sous le prétexte qu'il n'y a plus d'argent.
Ouais.
Mais ça, c'est vraiment le prétexte, parce que, en fait, les établissements financiers qui vont pallier à ce financement vont signer avec l'État un contrat sur 7 ans, et au bout de ces 7 ans, si le contrat est rempli, l'État, qui n'avait pas d'argent, va rembourser les sommes avancées par les établissements financiers avec des taux d'intérêt qui peuvent aller de 6 à 13% par an. Ce qui s'appelle, en langage clair, du pillage des fonds publics et au profit d'établissements financiers. On a vu, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, cette logique-là, c'est ce qu'on a vu dans le scandale des EHPAD,
oui,
où on apprend quand même par les camarades de l'automobile que Peugeot est actionnaire je crois que c'est 9 ou 14%, je sais plus exactement le chiffre, de la boîte qui est mise en cause.
Ouais.
J'aimerais qu'on m'explique ce que l'automobile vient foutre dans la gestion des EHPAD. Voilà.
Certes. C'est questionnant. Donc là, c'est la même logique.
Ah, c'est la même logique.
Dans l'ensemble du secteur du médico-social, du social et du sanitaire.
Et d'autant plus que on a vu sur texte, hein, c'est-à-dire c'est pas des on-dit. Nexem, qui est une des chambres patronales, je rappelle que les patrons ne peuvent pas s'appeler syndicats, hein, parce que les syndicats, c'est pour ceux qui n'avaient pas collaboré avec les nazis.
Eux, ils s'appellent, rappeler.
Voilà, ils s'appellent organisation patronale.
Ouais.
Et au passage, je tiens quand même à rappeler aussi que dans cette affaire-là, sur le financement, j'en suis
sur le contrat impact social, sur le financement.
Le financement.
Ouais.
Et, enfin, quand on regarde les textes. Enfin, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec D'ailleurs, la sauvegarde du Nord s'est désengagée tout de suite de cette affaire. Enfin, a mis en place, elle, un contrat d'impact social. Et ce contrat d'impact social a naturellement les mêmes effets délétères que ce qu'on voit sur les EHPAD. C'est-à-dire qu'on est au début de ce truc-là. et il faut vraiment y mettre un coup. Mais je voudrais rajouter quelque chose, parce que ça, on l'a vu, on l'a trouvé aujourd'hui.
Ouais, dis-nous.
Dans les négociations actuelles qu'il y a sur toutes les conventions collectives du secteur, les patrons veulent faire passer ce qu'on appelle des critères classants.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un critère classant ?
Parmi les critères classants, il y a un de ces critères, en fait, c'est introduire le salaire au mérite, hein, c'est-à-dire à la tête du client. Voilà.
Okay.
Et parmi ces critères classants, il y a les salariés qui auront une certaine autonomie dans leur travail pourront bénéficier du contrat forfait jour. Alors, je vous invite. Alors là, on est tombé quand même aujourd'hui sur ce qu'on entend par bénéficier des contrats forfait jour. Je vous le dis. Hein.
Vas-y.
Réglementation applicable. Les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jour ne sont pas soumis à l'ensemble des dispositions du Code du travail sur la durée du travail. En effet, ils sont exclus des dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de 10 heures, aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures sur la semaine et de 44 heures sous 12 semaines, mais également de celles relatives à la durée hebdomadaire 35 heures. Ils ne peuvent donc pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
Ah ouais.
Petit 1, c'est okay. Pas fini. En revanche, ces salariés sont soumis aux dispositions relatives au repos quotidien, 11 heures, et au repos hebdomadaire, 24 heures, aux congés payés, aux fériés, etc. Ce qui veut dire en clair que quand on bénéficie du repos quotidien, faut décrypter le truc. La journée faisant 24 heures, vous avez le droit aux heures de repos, ça veut dire que vous pouvez bosser 13 heures.
Ouais.
Et si je lis bien le texte, le repos hebdomadaire de 24 heures, c'est pas deux jours, hein, c'est un jour. Ça veut dire qu'en clair, on peut, avec ce truc-là, vous faire signer un contrat de travail. Un contrat de travail qui permettra au patron, éventuellement, de faire bosser les salariés 6 jours sur 7, 13 heures par jour.
C'est plus fort que les ordonnances Macron, quoi. Ça remet encore plus en cause le code du travail.
Le contrat forfait jour est une saloperie à la base.
Ouais.
Mais alors là, comme c'était pendant des années, ça a été réservé au cadre, personne n'a fait attention qu'il y a 2 ans, il y a un petit texte qui s'est passé en disant que ça pouvait, dans le cadre d'une certaine autonomie dans le travail, passer au non-cadre.
Ok.
Ce qui veut dire... Alors, en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on bosse plus pour le même salaire, ça s'appelle baisser le salaire.
Ouais, c'est ça. Ça a l'air assez clair.
Voilà. Je tenais quand même à vous en faire part
parce que c'est
récent et j'espère que les gens vont s'emparer de ce truc. Il faut savoir également que ça, c'est applicable. Alors, on revient aux ordonnances Macron. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aurait une signature d'un accord de branche qui inclut ce truc-là, c'est opposable à tous les salariés. Or, les ordonnances Macron disent qu'un salarié qui refuse une modification du contrat de travail, même s'il en a un, eh bien dans ce cas-là, il peut être licencié pour faute grave et il ne peut pas faire appel au prud'homme.
Ouais. C'est vrai.
Voilà.
Pour rebondir sur ce que dit Marc, effectivement, on voit bien là, comme il a dit, que s'il y a un accord de branche qui est signé au niveau national... ça peut s'imposer à tous les salariés. Mais encore plus grave, ce qu'on a vécu au mois de décembre est un déni total de démocratie. Je m'explique. Il a été mis sur la table par l'organisation patronale Access un accord qui précisait que seuls les salariés du médical et du paramédical percevraient les 183 euros nets par mois.
Ouais.
Cet accord a été signé par une organisation syndicale qui est la CFDT et qui a valu un droit d'opposition par 3 autres organisations syndicales qui représentaient les 2/3 des électeurs du secteur Sud, FO, CGT. Malgré cette opposition qui, selon la loi, rendait le texte caduc, l'organisation patronale Access a pris la décision de faire une recommandation patronale, c'est-à-dire qu'ils ont déposé une demande d'agrément auprès de la Commission nationale pour que le ministère valide cette décision de verser 183 euros à tout le monde, et ça malgré une opposition majoritaire. Ce qui veut dire que demain, même si on a un accord de branche, comme le dit Marc, qui est signé par la CFDT, qu'on a un droit d'opposition majoritaire, ils peuvent encore utiliser cette arme-là. Au même titre que si on va vers une convention collective unique telle que la veulent les patrons, avec des critères classants comme l'autonomie, mais pas que. Hein. Il y a aussi la maîtrise du sujet, il y a aussi le management. Ils introduisent la notion de management en disant que ça s'applique pour le chef N+1, mais ça peut aussi s'appliquer pour l'animateur des réunions. C'est-à-dire pour ce qu'on appelle, nous, qui a été mis en place, les coordinateurs.
Ouais.
Donc ça devient très grave, parce que ces critères classants vont aboutir à une individualisation des salaires. Alors, à la base, on fait un travail qui est basé sur un collectif de travail. Mmh. Et c'est bien la différence des métiers, la réflexion des uns et des autres qui permet d'élaborer et de construire le projet pour la personne qu'on accompagne. Si demain, on individualise tous les salaires, c'est la fin de nos métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui.
C'est le même schéma qu'ils appliquent à peu près dans tous les secteurs, mais là, c'est vrai que c'est particulièrement...
Disons que là, nous, il se trouve qu'on s'occupe de personne.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, où j'ai un peu pataugé, c'est qu'en fait, c'est cette histoire de la réunion que tenaient les patrons il y a 2 ou 3 ans, hein, sur où ils ont expliqué noir sur blanc, hein, on a le document à votre disposition, quand ils développaient sur ce qu'ils envisageaient pour l'avenir du secteur, donc ils parlaient de ça, ils mettaient ça pour les 5 ans qui viennent.
Ouais.
Donc on en est à 2 ans. Eh bien, ils prévoyaient l'ubérisation du secteur. C'était marqué en toutes lettres. Ça veut dire auto-entrepreneur Laurent, de pouvoir vous développer sur le travail en plateforme et tel qu'il l'envisage. C'est-à-dire filer de l'argent en gros aux familles ou à la personne handicapée. Et ensuite, ils font leur marché en disant tendeur de psy, tendeur de psycho, tendeur de trucs, et voilà.
D'accord.
Donc là, le travail d'équipe et la réflexion collective, c'est mort. Hein. Je veux dire, l'accompagnement éducatif, c'est mort aussi. Donc si on veut aller sur un truc comme ça, nous, en tout cas, on y est farouchement opposé. Hein.
Je rajouterais quand même que c'est bien tous ces éléments-là, y compris les conditions de travail, y compris ce qu'on veut nous imposer dans nos métiers, le salaire, les logiques comptables de nos directions qui mettent à part l'humain, parce que c'est ça qui est en train de se passer, fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de salariés qui désertent le secteur.
Ouais.
Ce qui a valu la semaine dernière une conférence de presse des associations du médico-social de la métropole, que moi j'appelle des pyromanes de pompiers, hein, parce que c'est eux qui ont les solutions. Et ils sont venus pleurer en disant on n'arrive pas à recruter. Mais en plus de tout ça, ils ont mis en place l'intérim dans les établissements. Et les gens démissionnent des CDD, des CDI pour aller vers l'intérim parce qu'ils gagnent plus. Ouais, donc en fait, on marche sur la tête, là. On marche sur la tête. Et aujourd'hui, on va dans le mur, dans le secteur, on va dans le mur. Les salariés l'ont bien compris. Les salariés sont en train de s'emparer du mouvement parce qu'ils ne veulent pas aller ce vers quoi on veut les faire aller. Et on espère que demain, ça sera une journée... mieux que celle du 7 décembre, en espérant...
Alors, justement, ouais, parlons-en du mouvement. Il a 4 mois, 5 mois, là, mais on sent quand même que depuis quelques semaines, il monte en puissance. Alors, probablement parce qu'il y a toute cette colère qui est en train d'exploser, le travail aussi de certaines organisations syndicales. Donc, qu'est-ce que vous envisagez, là, demain? Je sais que demain, il y a une Assemblée Générale à Lyon, il y a des mobilisations un peu partout. De demain jusqu'à les jours qui vont suivre et les semaines qui vont suivre, qu'est-ce que vous envisagez concrètement? Qu'est-ce que vous espérez de ce mouvement dans les faits?
Alors, comme tu l'as dit, demain, l'Assemblée Générale, hein, donc ça, ça va être mis sur la table, hein, parce que je pense qu'il ne faut pas attendre demain soir pour décider ce qu'on va faire demain, après-demain. Il faut que la question se pose dès demain, c'est-à-dire qu'on a déjà prévoir les suites. Hein. Je sais qu'au niveau de notre fédération, on a eu un conseil fédéral la semaine dernière. Ce qui a été avancé comme date dans le paysage, mais ça encore, ça reste à discuter avec les organisations syndicales et le collectif qui s'est créé sur Lyon, c'est la date du 15 mars.
Ouais.
Puisque le 15 mars, c'est à la fois l'anniversaire de notre convention 66, mais c'est aussi la journée mondiale du travail social. Donc ça pourrait être une date qui, symboliquement, pourrait être la prochaine mobilisation. Après, je sais qu'il y a aussi l'Assemblée Générale des 2 organisations patronales du secteur qui se fait le 17 février, et dans ces assemblées générales, il va être décidé du mandat qui va leur être donné pour savoir vers quelle convention on doit aller,
mm-hmm.
hein, avec également la possibilité d'avoir comme mandat de les dénoncer si des fois ils n'arrivent pas à aller vers ce qu'ils veulent comme convention. Donc voilà, on a plusieurs dates, mais il faut qu'on les mette en débat pour savoir ce qu'on va faire dans les jours et les semaines à venir. Sachant qu'aussi, la question de la grève reconductible peut être aussi posée, avec là où c'est possible, des piquets de grève dans les boîtes, parce qu'il faut quand même maintenir une pression. Moi, j'avoue que j'ai été quand même surpris entre le 7 décembre, ce qui était une date avant les fêtes de Noël, et aujourd'hui, bon, on est 1er février, c'est quand même un peu loin. On a eu une baisse de la mobilisation le 11 janvier, mais on voit que ça redémarre encore encore d'autant.
Ouais, là, voilà. Là, vous sentez que demain, ça va être, ça va, il va, les boîtes vont être mobilisées. Mais même y compris en dehors des grandes villes aussi, dans les.
Bien sûr. Moi, je peux, moi, je sais que j'habite à Tizy-les-Bourgs. On a un établissement d'ADAPI en Pleupuis. On a appelé un rassemblement devant l'établissement et on sait d'ores et déjà qu'il y aura des salariés d'ADAPI. Mais il y aura aussi des salariés de la sauvegarde qui habitent dans le coin. Il y aura aussi des salariés de la Roche qui habitent sur Tarare. Donc, on sent que en fait, ce que les gens ont vécu avec cette décision unilatérale de donner 183 euros à certains et pas aux autres, c'est une injustice.
Ouais.
C'est une injustice parce que pendant la pandémie, ils ont tous été sur le terrain.
Ouais.
Qu'ils soient éducateurs, AMP, maîtresses de maison, secrétaires, cuisiniers, tout le monde. Et de voir la reconnaissance qu'il y a en disant vous aurez pas, il y aura que les autres qui auront, ça c'est insupportable pour les salariés. Sans compter qu'ils ont été considérés comme des soignants parce qu'ils ont dû se faire vacciner, sinon ils n'avaient plus de boulot. Donc voilà, un coup on est soignant, un coup on l'est plus. Et puis bon, je rappellerai quand même qu'on a quand même pas mal d'établissements dans le médico-social financés par l'ARS, qui s'appelle l'Agence Régionale de Santé. Si avec ça on ne fait pas partie du soin, je ne sais pas de quoi on fait partie.
Alors on pourrait prendre par exemple dans le genre de décision aberrante ce qui se passe dans l'Isère. Dans l'Isère, la plus grosse association de l'Isère, la FIPAIM, a décidé de fermer 200 places en IME. 200 places.
Précise ce que c'est IME.
Alors, Institut médical et médico-éducatif. Ces places, on en a vraiment besoin parce que il se trouve quand même qu'il y a des listes d'attente d'enfants.
Reste bien devant le micro.
Oui. Il y a des listes d'attente d'enfants handicapés qui longues comme le bras, parce que d'ailleurs on maintient dans ces établissements des personnes qui n'ont plus l'âge mais qui n'ont pas de place dans les foyers d'hébergement.
Hein. Ouais.
Et ça fait des années que ça dure, des années. Ce qui fait que ça embolise tout. Du coup, on se retrouve. Il y a des gamins, par exemple, qui sont frappés de troubles autistiques, qui n'ont absolument aucune solution. Alors, certains peuvent aller à l'école, et encore, quand l'éducation nationale a les moyens de gérer ce type d'enfants, les personnes qui les accompagnent à l'éducation nationale sont sous-payées. C'est un véritable scandale, les AESH. Et tous ces gamins sont sans solution. Et dans le même temps, on ferme 200 places. Ça veut dire qu'on va encore foutre encore plus dans la merde et les mômes et les familles. Et naturellement, c'est pas satisfaisant pour les professionnels parce que le but de l'opération, c'est quand même que tous ces gosses trouvent une solution adaptée. Ça peut être à l'école inclusive. Dans certaines conditions, encore une fois, j'insiste, parce que je ne veux pas me foutre à dos les enseignants, mais il est clair et net qu'avec des classes surchargées, avoir des enfants handicapés en plus, c'est ingérable.
C'est évident.
Donc c'est des moyens pour l'éducation nationale, mais c'est aussi des moyens pour l'éducation spécialisée. Chaque gosse doit avoir une solution. Ce n'est pas normal que les familles se retrouvent dans une panade pareille.
On est bien d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner demain les heures précises et les endroits où on peut venir vous rejoindre ?
Vas-y.
Oui, donc demain à partir de 9h, il y a une assemblée générale à la Bourse du Travail, salle Moissonnier, hein, 9h à midi. Et ensuite à 14h, il y a un rassemblement Place du Lac devant la métropole.
Okay.
Où normalement, il devrait y avoir des prises de parole pour ensuite se diriger vers la préfecture.
D'accord, donc j'ai une manifestation après le rassemblement.
Ouais, okay. Tout à fait. Je rajouterai juste
vas-y,
quelque
vas-y.
Chose. Là, on a essentiellement parlé du social, médico-social de notre secteur, hein, santé, action sociale. Je rajouterai quand même que dans l'appel de demain, il y a aussi... les collectivités
territoriales et Pôle emploi.
Voilà, collectivités territoriales qui sont sur notre acte. Hein, voilà, parce qu'ils vivent les mêmes difficultés que nous. Alors peut-être ça serait intéressant un jour de faire une émission aussi avec eux.
Ouais.
Voilà.
Très bien, d'accord.
Et Pôle emploi aussi.
et les travailleurs et travailleuses de Pôle emploi. Ok.
Et je rajouterai, comme j'ai déjà dit à mon employeur, mais je l'ai aussi dit à une radio locale là où j'habite, on est déterminé avec les salariés, hein, on ira jusqu'au bout et on lâchera rien.
Eh ben, on l'espère. On va suivre de près cette mobilisation, en espérant qu'elle en appellera d'autres, y compris dans votre secteur, mais aussi dans les autres secteurs, et qu'on fasse monter la sauce pour essayer de faire aboutir toutes ces belles revendications. Merci à vous deux d'être venus pour
merci
cette interview.
Merci de m'avoir reçu.
Avec plaisir, on vous souhaite bon courage pour demain.
Vous nous aidez à populariser le mouvement parce qu'on est quand même aussi les invisibles du secteur.
C'est vrai, c'est vrai. Donc merci Marc, merci Laurent et puis à bientôt, du coup on vous recontactera pour connaître un peu la suite.
Et avant de passer au national,
je te laisse un petit exemplaire.
On écoute un morceau de Alpha One qui s'appelle Ensemble.
Le micro est bon. Le casque c'est bon, ça va ensemble hein.
Vous êtes l'Amérique, nous la Corée du Nord, on va pas ensemble. On se fait des passes en équipe dès qu'on a la balle, on centre. On prend pas les mêmes risques, on n'a pas le même crayon. On fait pas les mêmes disques, c'est pas le même rayon. Les jogging et les Timberland, ça va pas ensemble. Nous donnez pas les micros, on les réduira ensemble. Si elle n'est pas blanche, ta peau dérange. Je pense que France est tolérante, ça va pas ensemble. Le feu et le gaz, ça peut exploser. Une michetonneuse, un mec fauché, ça va pas ensemble. Top modèle et clic-clac, les Rolex, les flic-flac. L'alcool dans le sang et les routes en zigzag. Les routes en zigzag. Accident assuré. Hélico et Kalash, Pipo et Carnage. On reste au niveau des carnages. Toubab, Neges, Biko et Scarla. Jack et Marie-Jeanne sont comme Nico et Carla. Ça va ensemble. Hélico et Kalash, Pipo et Carnage. On reste au niveau des carnages. Toubab, Neges, Biko et Scarla. Jack et Marie-Jeanne sont comme Nico et Carla. Ça va ensemble. Immigrés, échecs scolaires, ennemis et collègues, hipster et Colette. Ça va ensemble. Illuminati, banque, triangle, yin, yang. Zinedine, Franck, Lilian, Alpha, le zombie est dead. Sobriété et wham, insomnie et dette. Hein. Ça va ensemble. Discrimination, coloris, raquette économique, esclavage, colonie, ça va ensemble. La France a des problèmes, long à énumérer. Loi du travail, c'est l'esclavage rémunéré. Facebook, Google, Uber, règne en maître. Nos enfants seront fichés avant de naître. Hélico et Kalash, Pipo et Carnage. On reste au niveau des carnages. Toubab, Neges, Biko et Scarla. Jack et Marie-Jeanne sont comme Nico et Carla. Ça va ensemble. Hélico et Kalash, Pipo et Carnage. On reste au niveau des carnages. Toubab, Neges, Biko et Scarla. Jack et Marie-Jeanne sont comme Nico et Carla. Ça va ensemble. Immigrés, échecs scolaires, ennemis et collègues, hipster et Colette. Ça va ensemble. Illuminati, banque, triangle, yin, yang. Zinedine, Franck, Lilian, Alpha, le zombie est dead. Sobriété et wham, insomnie et dette. Hein. Ça va ensemble. Discrimination, coloris, raquette économique, esclavage, colonie, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble.
Écoutez, donc celle d'avant, Alpha One, avec Ça va ensemble. Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 31 janvier 2022. Et nous allons passer tout de suite à...
International.
Et on commence avec le coup d'État au Burkina Faso.
Oui, la France continue à être déstabilisée en Afrique de l'Ouest. Après le Mali, après la Guinée-Conakry, cette fois-ci, c'est le coup d'État de la junte militaire au Burkina Faso contre le président Kaboré ce 24 janvier qui redistribue les cartes du pouvoir et de la diplomatie. Les effets du putsch sont immédiats, mise en place d'un couvre-feu dans le pays, fermeture des frontières, suspension du gouvernement de l'Assemblée nationale et de la Constitution. Ce nouveau putsch, motivé par l'incapacité des autorités à faire face aux violences djihadistes, rappelle que l'imbrication des militaires dans les élites politiques reste une donnée structurelle au Burkina Faso. Ce coup d'État s'inscrit plus particulièrement dans un contexte de crise marqué par la démission du Premier ministre Dabiré à la suite des mobilisations massives du mois de décembre dernier, on en avait parlé ici, mobilisation contre l'opération Barkhane. Pour rappel, c'est un convoi de l'armée française, un convoi militaire censé acheminer des armes de la Côte d'Ivoire au Niger, qui avait été pris à partie par des manifestants et des manifestantes burkinabés opposés à la présence militaire française au Sahel. L'anti-impérialisme qui s'exprime tant au Burkina qu'au Mali qu'au Niger, s'est donc cristallisé sur cette opération militaire au Sahel qui s'embourbe et semble inefficace contre les attaques multipliées du djihadisme. Dans un pays où les djihadistes ont fait plus d'un millier de morts depuis 2005 et plus de 1,6 million de déplacés en 3 ans, c'est énorme, dans ce pays donc, au Burkina Faso, l'intervention de l'armée française n'a réglé aucun problème. Voire pire, la situation se serait encore dégradée. Mais ce coup d'état militaire n'apparaît pas non plus comme une solution heureuse, comme le montrent les nombreux témoignages des exactions commises au nom de l'armée sur des populations civiles au nom de la guerre contre le terrorisme. Et même si l'organisation de la société civile Sauvons le Burkina parle du coup d'état comme d'une libération, permettons d'en douter, il ne faut pas trop se faire d'illusions, la fin du néocolonialisme ne viendra sûrement pas des forces militaires très très fortes pour ajourner à l'infini la remise du pouvoir aux civils, comme c'est le cas au Mali, en Guinée et au Soudan. Face à cette situation de crise, on souhaite force et courage au peuple burkinabé.
Et on enchaîne avec une petite musique.
Et on enchaîne avec un morceau, excusez-moi, un morceau de rap de la rappeuse qui s'appelle Davin Hor et son morceau s'appelle Coopérer.
Mon esprit est focalisé. Vers le sommet, j'ai les yeux, mes rêves deviendront réalité. Si c'est pas moi, c'est qui bande depuis, va falloir te faire à l'idée. Oui. Je les mets d'accord, je les mets d'accord. Je coupe leur tête, ils bougent encore. Je les mets d'accord, je les mets d'accord. Je coupe leur tête, ils bougent encore. Tu crois que j'attends que le premier venu vienne me doter sur de moi? Tu sais pas combien de gars j'ai dû mettre de côté. Ce soir, c'est 10 cas minima, faut que la table d'à côté. L'alcool est monté, laquelle je veux descendre, je veux faire comme la bobée. Y'a que des comiques, y'a que des gros mythos. Pourquoi t'es sorti très vite du comico? T'es plus dans secteur, tu la joues incognito. T'as donné des blasons, t'envoies des sicarios. J'ai des goûts de luxe comme Maria. Je vais devenir la reine du barrio. Je suis arrivé ici en paria. Partirai en lambeau. Je les mets d'accord, je les mets d'accord. Je coupe leur tête, ils bougent encore. Encore.
T'as vu Nord Pac-Man, yeah, yeah. Tout est vrai, tout est vrai. Coopérer.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi. On vient d'écouter la rappeuse Davin Hor avec son morceau Coopérer. On est toujours à l'international et on passe
sur un sujet, donc sur une attaque des djihadistes dans une prison kurde.
Exactement. Et malheureusement, le djihadisme ne se renforce pas seulement qu'en Afrique de l'Ouest, comme on vient d'en parler. En Syrie, l'État islamique s'est emparé pendant une semaine d'un centre de détention à Hasakeh, obligeant l'armée américaine à intervenir. Des dizaines de prisonniers sont encore aujourd'hui en fuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la plus grande opération lancée par l'État islamique en Syrie depuis mars 2019. Du 20 au 21 janvier, l'État islamique a pris pour cible la prison Al-Sinaa, le plus grand centre de détention au monde de djihadistes dans la ville de Hasakeh, qui se situe au nord-est de la Syrie. Pendant plusieurs jours, les combats avec les forces démocratiques syriennes se sont donc étendus dans tout le Hasakeh. Pour rappel, les FDS, les forces démocratiques syriennes, sont une coalition militaire créée en 2015 pendant la guerre civile syrienne et composée des unités du YPG, kurdes et de groupes d'opposition arabes comme l'armée syrienne libre ainsi que des tribus locales comme l'armée al-Nasadid. Personne ne s'attendait à une attaque d'une telle ampleur. Et pour cause, depuis sa défaite, l'État islamique se faisait plutôt discret ou se manifestait par des assassinats ciblés, des embuscades ou des kidnappings dans des régions surtout reculées dans le nord-est syrien. Il faut croire alors que leur force a été sous-estimée car ils ont réussi à prendre d'assaut une prison qui a 4500 détenus djihadistes et 800 mineurs. Ils ont failli aussi prendre la ville à côté, qui a pas moins de 200 000 habitants et habitantes. Pour reprendre le contrôle du territoire, rien moins que 10 000 soldats et l'appui de l'intervention des forces aériennes américaines ont été nécessaires. Résultat des courses, 250 combattants islamistes tués, ainsi que 27 hommes et femmes des forces démocratiques syriennes. Cette attaque, qui est passée sous les radars des renseignements autant kurdes qu'occidentaux, a été concertée et coordonnée entre les prisonniers à l'intérieur de la prison et les assaillants à l'extérieur de la prison. Les combattants islamistes ont ainsi fait sauter deux véhicules piégés pour rentrer dans la prison, tandis que les détenus, eux, s'attaquaient aux gardiens. Plus généralement, cette opération pose le problème de savoir que faire des prisonniers islamistes. En l'état, les différents centres du Rojava regroupent 12 000 suspects originaires de 50 pays. Mais comment se fait-il que les Kurdes doivent s'organiser seuls face à la détention et au procès des islamistes? Comment l'administration autonome du Rojava peut-elle faire face à la fois à la résurgence de l'État islamiste, à la déstabilisation de la région par le régime syrien et ses alliés russo-iraniens, et aux interventions militaires turques dont, on rappelle, la dernière grande offensive a eu lieu en 2019? Autant de défis donc que doit relever la nouvelle fédération démocratique. Force à eux.
Et avant de passer au national, on va vous mettre une petite musique qui se nomme...
C'est un classique, c'est l'émeute.
Oui, émeute.
Du rappeur Passy.
Un petit jeune.
Un petit jeune.
Lorsque 15 000 ouvriers tentent de prendre d'assaut le palais du gouvernement.
Bien loin. Si les casques bleus calent, c'est rien, si c'est chaud sur l'asphalte, c'est rien, on passe tes barricades, on pète tes barrières, on a la barre, on déraisonne et on craint plus personne, toi ta peine est renfort, la rage de renfort, sonne ta retraite, c'est ton heure qui sonne, insensible aux propagandes, les mecs qui glandent, ceux-ci vendent des lasses, et veulent tout péter en bande, comme dans un James Bond ou un Banderas, là t'as pas de télécommande, donc on te ta, en force, en foule des ordres, c'est rien, pour toi on a une corde, c'est rien. Tu nous verras à l'antenne, déraciner ton chaîne. On va changer les programmes sur ta première chaîne. C'est rien. Ça va pas bien loin. C'est rien. L'heure est impure, les règles n'existent plus. La foule a compris et ça n'hésite plus. Le bien ou le mal, mais là c'est pas le bien qui triomphe. L'instinct a fait un triomphe et un cri en fausse. Si l'émeute s'étend, c'est rien. Et si c'est inquiétant, ça va pas bien loin. Si tout est fermé, les rues et les voitures enflammées. Et ta citoyenneté, on n'en a rien à glander. Les gens des halls me comprennent, c'est leur halls que j'aime. Ils disent qu'il y a trop de haine qui coule dans mes veines. Un peuple héroïque face à un pouvoir égoïste. Un coup de gueule des sous-classes de la République. Ça chante bataille sur les Champs-Élysées. Le diable vient pisser sur la rue de la paix. On lâche pas le contrôle, c'est rien. Sur la lisière de l'émeute, subit la haine de la meute. C'est rien. Si ça pue les qui le sentent, c'est rien, si la tension est oppressante, ça va pas bien loin, s'il y a plus de respect, plus calé, plus gradé, et que tous vos conseils, on n'en a rien à péter, on va tout dégrader avant que pas sauter la boulangerie d'à côté, on fout le feu chez le voisin, histoire de se venger, s'il y a des putes cassées, c'est rien, si on vient tout plier, ça va pas bien loin, si le verre s'est sauvé, c'est rien, et même s'il y a l'armée, c'est rien, c'est rien, les pavés, des comas, des hématomes, des blessés, les décès, ton pays est stressé, si y a le feu au village, si y a le feu dans la ville, si tu vois saigner les civils, si ça tire dans l'entourage, c'est juste une nuit d'émeute où le diable jubile, deux jours aux infos, après on est tranquille.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle de toutes les radios. C'est le Canu Info du lundi 31 janvier 2022. Vous venez d'écouter Passy avec son morceau Émeute. Et maintenant, nous passons au...
National.
Avec un sujet sur une tentative de dissolution de nos médias de lutte indépendants.
Ouais, alors, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce serait pas bientôt les élections, par hasard? Le fond de l'air ne deviendrait-il pas de plus en plus brun? On vous en parlait la semaine dernière, localement, les élus LREM, LR et UDI de la métropole, des copains donc, mènent une offensive contre le groupe antifasciste lyonnais Lagal. Ces derniers, donc les militants et militantes de Lagal, ayant osé relayer un appel du mouvement national Les Soulèvements de la Terre à venir assiéger le 5 mars, le monstre Monsanto, dont le siège est à Lyon. Alors, si vous voulez écouter les détails de tout ça, vous pouvez aller sur Les Soulèvements de la Terre, réécouter notre Canu Info de la semaine dernière, et on rappelle donc que Monsanto est entre les rues Michel Berthet et Jean-Marie Leclerc. Voilà. Alors, eh bien, figurez-vous que Lagal n'est pas le seul groupe ou le seul média militant mené par des camarades visés, puisqu'à Nantes, c'est le site d'information indépendant et militant Nantes Révolté qui est dans le collimateur. Tout a commencé suite à une manifestation nantaise, manifestation antifasciste et contre les violences policières. C'était le 21 janvier. Il y a eu quelques centaines de personnes, il y a eu une vitrine brisée d'un magasin Zara et une vitrine de Monoprix dégradée, c'est-à-dire pas grand-chose pour la ville de Nantes. Il n'en fallait pas moins pour que les élus de droite et d'extrême droite s'emparent du sujet, menés notamment par la responsable LREM de Nantes et la présidente des Pays de la Loire, qui n'est autre que Christelle Morancé, qui est non seulement millionnaire, mais qui est aussi sarkozyste et filloniste. Donc, côté délinquance, elle s'y connaît bien. Donc, tout ce beau monde a décidé qu'il fallait absolument dissoudre Nantes Révolté, puisque Nantes Révolté a appelé à la manif. CQFD. À peine 24 heures plus tard, Darmanin en personne annonçait la procédure de dissolution à l'Assemblée nationale. Sauf que, Nantes Révolté n'est pas un groupe politique. Nantes Révolté est un média indépendant. Et un média ne peut pas être dissous car il est protégé par la loi sur la liberté de la presse. Mince alors, même le préfet de Nantes, Didier Martin, était bien embêté quand Ouest France l'a interviewé. Sur cette question, je le cite ainsi, Nantes Révolté est considérée comme un média. Nous sommes confrontés au respect de la loi sur la liberté de la presse. Notez bien le terme confronté. Trop dur, franchement, la loi sur la liberté de la presse, pas pour le préfet de Nantes. Alors, depuis, Nantes Révolté a reçu des dizaines de milliers de soutiens. Une pétition tourne sur Internet. On vous invite à aller la signer. Il y a eu la Ligue des droits de l'homme, Mélenchon, la France insoumise, Anas Kazib, des gens du NPA. Bref, une partie de la gauche radicale qui s'est mobilisée en soutien à Nantes Révolté. Donc a priori, sur ce coup-ci, on l'espère, d'entrée voltée, devrait s'en sortir. C'est pas la première fois qu'ils sont attaqués. En 2015, la procureure de Nantes portait plainte après, donc contre d'entrée voltée, après la diffusion d'une affiche contre les violences policières. Incroyable. En 2021, le syndicat d'extrême droite Alliance, syndicat de police, réclamait la censure auprès de son pote Darmanin, réclamait la censure donc suite à des affiches parodiques. Et en 2021, toujours, Zemmour portait plainte, décidément, après que Nantes Révolté ait relayé un appel à manifester contre sa venue. Alors, petite anecdote, palme d'or de la désinformation au chien de garde de l'équipe de Yann Barthès, l'émission de Quotidien du groupe TF1, propriété de la multinationale Bouygues, qui a voulu faire un sujet à Nantes sur la dissolution de Nantes Révoltée. Donc ils ont contacté à plusieurs reprises les militants et militantes du média de Nantes Révoltée et ils ont finalement accepté de les rencontrer. Au bout d'une heure de questions, alors selon Nantes Révoltée malhonnête et accusatrice, je vous donne un exemple, Nantes Révoltée commet-elle des violences? Les camarades de Nantes Révoltée ont répondu « Eh bien non, c'est un média et il ne commet pas de contre-vérité comme le fait TF1 ». Bref, en gros, pendant une heure, les camarades de Nantes Révoltée se sont fait attaquer par les journalistes de Quotidien et ont répondu sans se laisser faire, on imagine bien. Le résultat de cette interview, eh bien pas une seule seconde de cette interview n'a été diffusée dans le sujet de Quotidien. Ils se sont fait complètement squeezer. Donc le sujet de Quotidien sur Nantes Révoltée s'est fait sans Nantes Révoltée, avec des images choc de la manifestation du 21 janvier, une interview d'une députée de La République En Marche et la désignation de Nantes Révoltée comme un groupuscule et non comme un média. Merci donc à ces chiens de garde du journal Quotidien de Yann Barthès de faire le même taf que CNews, à peu de choses près. Alors nous, évidemment, on exprime ici notre soutien total à ce média indépendant, ami, tenu par des camarades qui ont plusieurs millions de vues chaque mois, 250 000 abonnés et qui font un travail de terrain de ouf sur les luttes sociales, contre les violences policières. J'en passais des meilleurs, donc vraiment soutien total. Et pour terminer, puisque Nantes Révoltée n'est pas le seul à subir la répression du moment, il y a un site d'information qui s'appelle Paris Lutte Info, qui est un site d'information indépendant, au même titre que Les Rébellions, hein, c'est à peu près le même genre de site d'information militant. Donc Paris Lutte Info a reçu une mise en demeure de la part du ministère de la Transition écologique. Eh oui, incroyable. Avec menace de poursuite, des amendes allant jusqu'à 20 000 euros et jusqu'à 5 ans de prison ferme, du grand n'importe quoi. Tout ça car le site s'est permis de publier les listes des logements vides des bailleurs sociaux en France. Alors, le ministère de la Transition écologique s'est basé sur une RGPD, c'est le règlement général, sur un RGPD, un règlement général pour la protection des données qui est censé protéger les données relevant de la vie privée. Sauf que les listes émanent des bailleurs sociaux eux-mêmes, d'une part, et généralement elles sont publiques, et d'autre part, les bailleurs sociaux étant considérés comme des personnes morales, ne sont pas concernés par cette RGPD. Et puis, surtout, ce que dit Paris Lutte Info, ils ont bien raison, c'est qu'ils assument, au-delà même du plan juridique, surtout politiquement, d'avoir publié ces listes de logements vides. Ils rappellent qu'en 2020, 143 000 personnes sont sans domicile, d'après l'INSEE, et qu'il y a 643 000 hébergements contraints chez des tiers et près de 3 millions de personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles. Grosso modo, et on le sait depuis longtemps, il y a beaucoup plus de logements vides que de personnes qui dorment à la rue, et les bailleurs sociaux ont très nombreux logements vides. Il n'y a qu'à voir Grand Lyon Habitat en ce qui concerne Lyon pour savoir qu'effectivement les bailleurs sociaux ont de très nombreux logements vides. Alors et ici aussi on envoie tout notre soutien à Paris Lutte Info qui subit lui aussi comme site une offensive de la part du ministère ou des élus locaux de droite, comme le ministère de droite. Donc que ce soit la GAL, que ce soit Nantes Révoltée, que ce soit Paris Lutte Info, on lâche rien, on vous soutient et continuez à faire ce que vous faites parce que c'est super ce que vous faites. Et j'ai fini.
Et donc, on finit avec un dernier sujet qui, malheureusement, concerne une fois plus les violences policières. Une fois n'est pas coutume, donc, le 7 novembre dernier, une nouvelle scène de violences policières a lieu. José, 15 ans, est violemment frappé par des policiers qui entrent dans leur domicile. Il est frappé dans sa chambre avant d'être mis en garde à vue. Pourtant, sa mère est là et filme la scène. La scène qui est d'une grande violence, comme on peut le voir sur les vidéos. En bonne logique, on s'attend à ce que la vidéo sans équivoque, permettent de prouver la violence des policiers et donc de les accuser. On s'attend à ce que la justice reconnaisse la violence des policiers et donc exige réparation. Mais non, dans un pays comme la France, filmer la police devient un délit. La preuve, la maman de José, alors qu'elle a porté plainte à l'IGPN, c'est elle qui est placée en garde à vue au prétexte de violence sur agent. L'institution policière est quand même très douée pour inverser les rôles, car aux yeux des flics, les victimes deviennent les agresseurs. C'est comme ça. La suite de l'histoire est pourtant également édifiante. La procureure de Versailles, cette fois, fait signer un procès verbal à la maman de José alors qu'elle ne sait pas lire le français. Le tout sans présence d'aucun avocat. Bah oui, il est où le problème ? Finalement, la maman de José est condamnée pour violence contre personne dépositaire de l'autorité et doit payer pas moins de 200 euros d'amende ainsi que des dommages et intérêts à chacun des flics qui s'élèvent à 2800 euros. La procureure de Versailles condamne la témoin de la scène et permet donc de couvrir les policiers. C'est ça qui s'est passé, policiers qui ont donc ainsi échappé à la convocation de l'IGPN. Bref. Une fois encore, la justice nous montre son fonctionnement à double vitesse.
Et pour finir ce Canu Info, nous passons au traditionnel agenda.
Agenda qui sera bref, mais intéressant.
Mais intense. Alors, évidemment, on commence demain, mardi 1er février. Si vous avez bien écouté l'émission, vous le savez déjà. À 9h, il y a l'Assemblée Générale des travailleurs du secteur du médico-social, du social, du sanitaire et les travailleurs et travailleuses de Pôle emploi, entre autres, donc, qui font une Assemblée Générale à 9h à la Bourse du Travail. C'est à la salle Moissonnier, c'est au 3e étage. Et à 14h, il y a un rassemblement avec prise de parole qui sera suivi d'une manifestation donc pour cette mobilisation nationale du secteur du médico-social. Dans cette journée, toujours, vous pourrez aller le soir boire des coups autour d'une bière, d'un thé ou d'un croque-monsieur. Imaginez un croque-monsieur, c'est génial. À l'Amicale du Futur, c'est le bistrot de la Caisse de Solidarité. La Caisse de Sceaux, c'est la caisse lyonnaise qui soutient les personnes qui se font réprimer dans le cadre des mouvements sociaux ou pas forcément.
Puis jeudi 3 février, on aura à 9h au tribunal administratif un rassemblement pour dire stop au carnage écologique qui a lieu en ce moment dans le PILA, donc le tribunal administratif qui se situe au 184 rue du Guesclin. C'est à 9h jeudi.
Le samedi 5 février, il y a la permanence Info Shop, comme chaque samedi de 14h à 18h à la Lutine. Donc l'Info Shop de la Lutine ouvre ses portes aux vagabonds, vagabondes, apatrides, zonards, zonardes et autres voyageurs, voyageuses temporelles au programme des livres, des fanzines, des disques à pas cher, du café gratos, des gens avec qui discuter et plus encore.
Et enfin, lundi prochain, pendant notre émission, aura lieu une réunion publique pour impulser une nouvelle dynamique de lutte écologique et sociale à la Croix-Rousse pour lutter contre notamment la gentrification. Donc ce sera deux réunions publiques dont la première aura lieu donc le lundi 7. Ça sera à Alternative Bar au 126 montée de la Grande Côte dans le premier arrondissement.
Et puis bien sûr lundi prochain à 19h pétante comme d'habitude. Le brillant Canu Info du lundi.
On vous attend au tournant.
Ah ouais.